Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Léa au micro, une maman franco-italienne mariée à un Espagnol vivant tout près de Boston aux États-Unis. Elle nous raconte la rencontre en France avec son mari et puis leur départ aux États-Unis, sa reconversion professionnelle une fois arrivée là-bas et puis le développement de leur famille à l'étranger dans une famille où on parle trois langues. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Léa!
Bonjour Cindy.
Merci de prendre un peu de temps après les fêtes pour venir partager ton histoire avec nous.
Mais de rien, je suis ravie d'être là, c'est super.
Dis-moi, alors j'aimerais bien pour démarrer que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille.
Bien sûr, alors je m'appelle Léa, j'ai 30 ans, j'habite à Rivière, donc c'est une ville au bord de la mer, juste à côté de Boston. Je suis mariée à Pedro, qui est espagnol, et on a un bébé, bon un bébé, c'est plus vraiment un bébé,
un garçon,
un toddler, voilà, qui a 2 ans et, je sais pas, 5 mois, je crois, oui, 2 ans et 5 mois, Luca, qui s'appelle Luca.
Mais alors, donc, du coup, t'es en plein dans la période Turbo 2 ou ça va un peu mieux?
Ouais, mais en fait, on l'a pas trop eu, nous. Alors, on a de la chance, on a des journées plus difficiles que d'autres. Mais ouais. Globalement, ça va. Alors, peut-être que c'est la façon dont on l'éduque, je sais pas. Ou alors, peut-être qu'on a juste de la chance. Après, selon d'autres personnes, c'est à 3 ans. Donc, je me dis, bon, peut-être qu'on l'aura à 3 ans, terrible tout. Je sais pas.
Je te le souhaite pas. Enfin, j'espère que ça va continuer comme ça.
Ouais, moi aussi.
Alors, j'aimerais bien, avant qu'on démarre, que tu nous fasses un peu une rétro familiale. Parce que tu me disais en off que tu étais issue d'une famille multiculturelle.
Ouais, c'est ça. Alors, mon papa est italien, enfin, plutôt sicilien, parce que si je dis italien et qu'il écoute ce podcast, il va pas être content. Donc, mon papa est sicilien et il est arrivé en France à 28 ans ou 29 ans pour épouser ma mère, qu'il a rencontré en vacances, parce que ma mère faisait de l'autostop et mon père avait une Fiat 500. Il s'est arrêté avec la Fiat 500. Il a emmené ma mère et voilà. Et une histoire d'amour est née.
Trop marrant.
Ouais, c'est une histoire un peu de film. Sauf que ma mère était normande, enfin, de Normandie, et mon père, du coup, sicilien. Ils se sont écrits pendant très longtemps, et puis un jour, mon père a décidé de venir vivre en France pour épouser ma mère et avoir des enfants.
Donc, mais ça, il s'est fait avoir. Attends, il a quitté le soleil de la Sicile pour aller dans la pluie normande avec les vaches.
C'est ça, exactement. À la base, c'est ma mère qui devait aller en Sicile. Ouais, il y a le fromage, mais bon. Ma mère devait vivre en Sicile à la base, mais je crois qu'elle a pas trop aimé parce que la Sicile, c'est intense, quoi. C'est une région italienne assez intense, c'est très familial et je pense que pour une Française à l'époque, c'était en 1900, combien? 76, 75, je crois, ouais. 75, 76. Ouais. Donc, il y avait une très grosse différence entre l'Italie du Sud et le nord de la France.
Mais alors, donc, du coup, ils parlaient, l'un d'entre eux parlait italien ou l'un d'entre eux parlait français quand même?
Ma mère parlait un peu, on va dire qu'elle baragouinait un peu d'italien, et mon père est très littéraire, donc il adorait lire des poèmes en français. Donc il avait un très bon français, enfin très bon, il avait un bon français, et en plus il avait beaucoup voyagé pendant sa jeunesse, donc il avait déjà un bon français. Après moi je suis née quasiment 15 ans après qu'il soit arrivé en France, donc moi quand je suis née et que j'étais enfant, mon père parlait déjà très bien français. Enfin, il a un très fort accent toujours d'ailleurs, mais que moi j'entends pas, mais selon mes amis, il a un très fort accent. Mais oui, il parlait déjà français. Et d'ailleurs, c'est un peu la chose drôle en fait, c'est que mon père m'a pas appris l'italien. Mon père a toujours parlé français à la maison.
C'est vrai, il a pas voulu.
Le truc, c'est qu'à l'époque, quand il est arrivé en France, l'immigration italienne n'était pas forcément bien vue. Et en plus, par exemple, mon grand-père refusait de voir mon père. Enfin, il était un des seuls Italiens ou étrangers en Normandie. Enfin, c'était pas une époque où les gens s'expatriait beaucoup en fait, donc je pense qu'il a voulu s'intégrer et pas effacer qu'il était italien, mais s'intégrer. Et aussi il y avait le discours des médecins de l'époque que s'il me parlait italien, j'allais être dyslexique ou avoir des retards de langage.
Ouais.
Donc ça avait été déconseillé à mon père de m'apprendre l'italien pour éviter toute confusion de langage. Mais j'entendais très souvent mon père parler italien, il appelait ses copains, on allait en Italie régulièrement. Et j'ai grandi avec la musique italienne, donc Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Umberto Tozzi, voilà. Mes parents adoraient l'Italie, donc j'ai toujours entendu de l'italien et je comprends plutôt très bien, surtout aujourd'hui que je parle espagnol. Mais par contre, je parle pas. Et c'est d'ailleurs un peu toujours drôle quand je rencontre des Italiens ici à Boston et que je leur dis oui, je suis franco-italienne, parce qu'officiellement je suis franco-italienne, et qu'ils me parlent en italien et que je leur dis mais par contre je parle pas italien. Je me sens toujours illégitime en fait de dire que je suis italienne alors que je parle même pas la langue en fait. C'est très c'est un peu un problème d'identité pour moi, je pense, depuis longtemps. C'est ce sentiment que je me sens pas que française, je me sens pas que italienne. Je suis un mélange des deux parce que j'ai la culture. Mon père, c'est lui qui cuisinait à la maison parce que son père avait un restaurant en Sicile. Donc, j'ai grandi en fait dans la culture culinaire italienne et tradition. Je connais tout, mais je parle pas la langue. Donc,
c'est l'épisode, je crois qu'on en parlait avec Karen, où elle définissait son identité que par sa langue, en fait, vu qu'elle vivait en France et qu'elle était anglaise.
Ouais.
Toi, je pense que ça doit être par la nourriture.
Ouais, c'est ça. Moi, c'est la nourriture. Hein. Ouais. Non, c'est pas le pire. Moi, c'est la nourriture, le caractère de mon père qui est assez volcanique. Mon père, c'est tous les clichés du Sicilien, en fait. Donc, oui, j'ai vraiment grandi comme une enfant franco-italienne. C'est ça, ouais. Je me sens chaud.
Oui, donc tu avais toujours de la famille en Sicile. Donc, j'imagine que ouais. Tu faisais des allers-retours entre la France et l'Italie.
On n'est pas allé beaucoup en Sicile quand j'étais enfant parce que mon père est fils unique. Il a perdu ses parents assez tôt. Donc on n'allait pas beaucoup, on allait beaucoup par contre dans le nord de l'Italie parce qu'on allait souvent en vacances sur la Côte d'Azur et donc on allait toujours dans le nord de l'Italie en vacances aussi. Par contre, à partir de mes 15-14 ans, on a commencé à y aller tous les ans et donc j'ai dû avoir 15 ans je crois, ouais 15 ans, la première fois que j'ai été en Sicile et ça a été génial, enfin, j'ai adoré mais très différent de la France.
C'est marrant parce que j'imagine que tu poursuis... les racines de tes parents en épousant un conjoint qui n'est pas de ta culture.
Ouais, c'est très marrant. En fait, j'ai l'impression d'avoir reproduit un peu le schéma de ma mère. Parce que, du coup, j'ai épousé mon mari était espagnol.
T'as fait l'autostop ?
Non, j'ai pas fait l'autostop, mais notre rencontre était assez curieuse aussi. Mais oui, c'est vrai que c'est le même schéma en fait que ma mère, sauf que c'est au lieu d'être italien, c'est l'Espagne. D'ailleurs, mon père m'a fait la réflexion quand j'ai ramené mon petit ami, il m'a dit t'aurais pu ramener un italien quand même. Je lui ai dit, bah, écoute, je choisis pas, écoute, c'est un espagnol, c'est un espagnol.
C'est le bassin méditerranéen, ça va.
C'est ça, voilà. Ça
pareil compte, sans quoi. Être pareil, ça va.
C'est ça, exactement. Ouais.
Et alors, comment t'as rencontré ton mari ?
Alors, je l'ai rencontré sur la Côte d'Azur parce que mes parents ont déménagé du coup de Normandie sur la Côte d'Azur quand j'avais 19-20 ans. Et donc, j'étais là pendant un moment, justement pour se rapprocher de l'Italie aussi en partie. Et en fait, mon mari venait de finir son Erasmus à Grenoble et il venait de s'installer sur la Côte d'Azur avec deux autres copains espagnols pour commencer leur premier job dans une boîte française en tant qu'ingénieur informatique.
Okay.
Et du coup, ils habitaient en coloc tous les trois et leur maison était surnommée l'auberge espagnole parce qu'en fait, il y avait une soirée tous les week-ends. voilà, c'était la maison connue pour ça. Et en fait, une amie de collège que j'avais pas vue depuis le collège me dit, écoute, viens, parce qu'elle habite aussi sur la Côte d'Azur, du coup, et me dit, écoute, viens, je vais à une soirée chez des Espagnols, c'est l'anniversaire de Pedro, justement, viens, je t'emmène. Je dis, mais je le connais pas. Elle me dit, mais non, mais c'est une excuse pour faire une fête. Parce qu'en fait, ils cherchaient toujours des excuses pour faire des fêtes. Donc là, l'anniversaire, c'est une excuse de plus pour faire une fête. D'ailleurs, pour l'histoire un peu drôle, quelques, je crois, un ou deux ans après qu'on était officiellement ensemble, ses copains cherchaient une excuse pour faire une autre fête. Et un jour, je rentre dans l'immeuble et je vois un panneau écrit « Pour célébrer les fiançailles de Pedro et Léa, nous allons faire une fête ce week-end. » Alors qu'on ne savait pas du tout fiancés, ils n'étaient pas du tout au courant, en fait. C'était juste une excuse pour faire une fête, quoi. Voilà, donc je l'ai rencontré comme ça. Lui, il parlait pas très bien français. Il avait appris le français en Erasmus. Donc, un français Erasmus...
Oui, et puis il est en coloc avec d'autres Espagnols. Donc,
c'est ça. Voilà.
On connaît un peu
exactement. Mais il parlait... Celui qui parlait le mieux des trois parce qu'il avait quelques amis français. Il avait fait un effort de plus, je pense, pour rencontrer des Français. Donc, il parlait pas mal. On se comprenait. Et étonnamment, moi, j'adorais qu'il me parle espagnol. Je pense que ça devait être le côté un peu... pas exotique. Et du coup, je disais souvent, écoute, parle-moi en espagnol, moi je te parle en français. Et moi, je parlais pas espagnol à l'époque, hein, du tout. Hein. J'avais étudié, je crois, un an l'espagnol, mais genre, j'avais un niveau d'espagnol zéro.
Oui, dire hola et gracias.
C'est ça, exactement. Et en fait, je me suis rendu compte que je comprenais très bien, mais vraiment très bien. Alors, mon mari aussi, il vient d'une région d'Espagne où il n'y a pas d'accent très fort.
Oui, en fait, c'est ce que j'allais te dire. Alors, il vient de Castellano ou catalan?
Il vient de la Rioja, c'est pas très connu, c'est une toute petite région, mais c'est très connu pour le vin rouge. C'est une très bonne région pour le vin. C'est sous le Pays Basque, donc c'est nord milieu un peu, on va dire.
Okay. C'est vers Santander, non ?
Ouais, c'est pas très loin du Pays Basque. T'es à 1h30 de Bilbao, par exemple. C'est vraiment pas loin. Et du coup, l'espagnol qu'il a est un espagnol assez. Enfin, il a un espagnol qui est très clair, qui n'a pas d'accentuation. Bah, il a un accent, évidemment, mais moi, presque, je trouve qu'il a un espagnol de prof, en fait. C'est facile à comprendre.
Ok.
Il parle doucement, il parle pas vite, il ne mâche pas vraiment ses mots. Et donc, je me suis rendu compte que je comprenais très bien. Et avec le recul aujourd'hui, je pense que c'est parce que même si je n'ai pas appris l'italien avec mon père, j'ai toujours baigné, en fait, dans l'italien. Mon père parle italien avec ses amis, j'entendais parler italien, en fait. Et du coup, je pense que ça a dû jouer, en fait, depuis mon enfance, sans que je me rende compte sur ma capacité à comprendre l'espagnol.
Oui, ou tout du moins les langues latines quand même.
C'est ça, ouais. Donc
Ouais.
voilà, notre rencontre, c'était pas le coup de foudre du tout au début, parce que lui était plutôt rentre dedans, on va dire. Et moi, j'étais, on va dire, plus. J'avais 20 ans et lui avait 27 ans, en fait. Donc aussi, il y avait une différence
Ouais.
d'âge. Et voilà,
Ouais.
moi, j'étais plus réservée, plus timide, donc il m'effrayait un peu, quoi. Moi, je le voyais comme. Je me disais, ah, mais il est un peu vieux pour moi quand même, 27 ans. Enfin, quand on a 20 ans, ça fait bizarre, en fait, de dire
Ouais,
que.
j'imagine. Parce qu'attends, Mac, je crois qu'entre Mac et moi, on a 8 ans d'écart.
Ouais, bah, tu vois. C'est peut-être le
Mais.
fait que j'avais 20 ans qui me faisait vraiment. Pour moi, 27 ans,
Ouais.
c'était loin, quoi. Je me disais, mais 27 ans, pouf, le jour où j'aurai 27 ans,
Oui, il est prêt à se
ouais.
marier et à fonder sa
C'est
famille.
ça. Alors que pas du tout, en mode espagnol.
Oui,
C'est-à-dire,
non.
l'espagnol se
Surtout
marie tard, ouais, on fait la fête.
espagnol et en plus un garçon, quoi. Je veux
C'est ça.
dire. On sait,
Non,
les
c'est
garçons,
encore.
quand ils sont pas 30 ans, ça sert à rien d'aller les voir, hein.
Non, c'est ça. Et puis, en coloc avec ses copains sur la Côte
Ah ouais.
d'Azur, avec un salaire d'ingénieur informatique, fallait pas lui en demander beaucoup quand même à cette époque-là. Donc, voilà, notre rencontre. Et puis, finalement, ça a marché. Ouais, ça a marché. Alors qu'on a deux cultures. Enfin, finalement, on pense que l'Espagne, c'est proche de la France, mais la culture est quand même assez différente. Et même aujourd'hui, on a des choses, on se rend compte qu'on a des barrières nos cultures, en fait. Des fois, on se comprend pas. Mais juste parce que nos cultures sont différentes. Alors que pourtant, on se dirait, bon, France et Espagne, c'est l'Europe, c'est à côté. Mais non.
Ouais.
Il y a plein de choses qui changent.
Ça, et mine de rien, quand même, l'écart d'âge. Du coup,
Ouais,
ça fait
aussi, ouais.
un tout petit écart générationnel et des fois, tu te dis, bon, on a quand même quelques trucs qu'on n'a pas en commun, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis, moi, j'avais rien vécu encore. C'est-à-dire, non, j'étais encore en train d'étudier, j'avais pas encore eu vraiment de premier travail. Lui, il avait déjà été en Chine pour faire un master, il avait voyagé, il avait fait plein de choses en fait. Donc il y avait aussi,
Ok.
je pense, un écart
Ouais.
ouais, sur ça. Mais bon.
Alors, vous restez combien de temps dans cette situation à dater, on va dire?
Je crois en fait, ce qui se passe, c'est que je tombe assez malade. Je crois 3 mois après qu'on commence à être ensemble, je fais une encéphalite. Alors c'est comme une méningite, mais plus grave, on va dire. Je reste dans le coma 3 jours, ça fait 3 mois qu'on est ensemble, donc c'est quand même un
Ouais,
peu compliqué
lourd,
quand, oh,
la
c'est ça, c'est
vache,
lourd
ouais.
quand, et en plus j'étais chez lui quand je suis tombée dans le coma, donc voilà, c'était une situation compliquée. Et je pense que ça nous a complètement liés, et je crois que c'est à ce moment-là qu'on s'est avoué nos sentiments, et que finalement notre histoire, elle est passée de juste on s'aime bien, on se voit de temps en temps, à on est ensemble. Donc, comme quoi, des fois, des événements un peu tristes
Ouais,
peuvent nous lier.
structurer une
C'est
relation
ça.
assez claire.
C'est ça. Alors lui, il est resté en coloc quasiment jusqu'à ce qu'on parte aux États-Unis. Un an avant qu'on parte, il a acheté un appartement. Donc moi, je vivais encore entre chez lui et chez mes parents. Mais on s'est
Ouais.
vraiment installés ensemble quand on est parti aux États-Unis en 2014, je crois. Ouais, 2014.
Ok. Mais alors donc du coup, pourquoi les États-Unis?
Parce qu'en fait, mon mari travaillait pour une boîte qui s'appelle Amadeus. C'est une boîte dans l'aérien qui gère tout ce qui est billets d'avion. En fait, dès que tu achètes un billet d'avion, ça passe par Amadeus, globalement.
Ok.
Et en fait, ils avaient un projet à Boston. Et du coup, on lui a proposé de partir à Boston pour être muté. Et
Donc,
moi,
attends, il parle français, espagnol et anglais?
Ouais, c'est ça. En fait, la boîte où
Pas
il
mal.
travaille
Pas mal, Pedro,
Ouais,
hein?
pas mal. En fait, la boîte où il travaillait à l'époque à Amadeus, c'était une boîte où il y avait beaucoup d'ingénieurs du monde entier. Donc, il parlait surtout anglais au travail. Parce que dans
Ouais.
son équipe, il y avait un espagnol, un roumain, un anglais. Donc, en fait, les gens parlaient. Et c'est une boîte européenne aussi. Donc, il y a des bureaux en Espagne, des bureaux en Allemagne. Donc, il parlait surtout anglais. Et puis, avec moi, il parlait que français. Donc, forcément, il a beaucoup amélioré son français, évidemment.
Ouais.
Et on est
Il a
parti à
dû
Boston.
régresser en espagnol, du coup, le pauvre, hein.
Non, parce qu'en fait, tous ses copains sur la Côte d'Azur étaient des Espagnols. Donc, en fait,
C'est vrai.
on parlait beaucoup espagnol. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'ai appris l'espagnol, parce qu'en fait, j'en avais marre de rien comprendre aux soirées. Je me sentais toujours un peu à l'ouest, de rien comprendre aux soirées. Et puis même ne pas parler avec sa famille, ça me frustrait. Donc j'ai dit, bon, écoute, faut pas apprendre l'espagnol, c'est pas possible, quoi. Et du coup, j'ai appris l'espagnol avec lui, en fait. Du coup, en France, ce qui est un peu bizarre quand je raconte aux gens que j'ai appris l'espagnol en France. Mais en fait, ouais, il me parlait espagnol, je lui répondais en français. Puis un jour, j'ai commencé à répondre en espagnol. Et puis voilà. Donc c'est pour ça. Et oui, et du coup, on est parti à Boston parce que moi, j'en avais marre de la Côte d'Azur. Honnêtement, j'ai pas du tout aimé la Côte d'Azur. Alors, c'était des clichés, mais c'est un peu bling-bling. Les gens sont de partout, donc c'est dur de faire des vrais amis, je trouve.
Ouais, et puis la mentalité.
Ouais.
Il y a une grosse partie de la population qui vote FN, quoi. C'est quand même dingue. C'est dommage parce que c'est superbe comme paysage et compagnie, mais ouais, la mentalité, je suis d'accord que.
C'est pas super, non. Et c'est pas facile non plus parce qu'en fait, il y a beaucoup de villes. Donc, il y a Nice, il y a Antibes. Et en fait, t'as pas tout dans une seule ville. Donc, moi, j'avais le sentiment d'être toujours en voiture, en fait. Mes parents habitaient dans un village pour avoir une maison, une grande maison. Donc, ce sentiment qu'il n'y a pas vraiment un seul endroit, mais qu'il fallait toujours prendre la voiture. Il n'y a pas de transport en commun entre les villes, en fait. Enfin, il y a le train, mais c'est une vie un peu bizarre, je trouve. Ouais. Et moi, j'en avais marre. Enfin, j'avais passé quasiment 20 ans de ma vie en Normandie et ça n'avait rien à voir, en fait, avec
le sud, ouais.
Le sud, voilà. Et du coup, mon mari m'a dit, écoute, moi, je voulais partir depuis longtemps. Lui aussi, parce que bon, lui, il n'est pas français, donc pourquoi pas. Et quand ils nous ont dit Boston, on a dit, OK, allez, go. Et je crois qu'en 3 mois, on est parti.
Boston, ouais, après, je ne sais pas où vous étiez dans le sud de la France, mais ouais, ça doit quand même changer en termes de climat, quoi.
Ouais, ça change beaucoup en termes de climat. Après, les étés sont chauds à Boston, hein. Il fait très chaud l'été.
C'est vrai.
C'est très lourd, même limite, il y a des orages quasiment pas tous les jours, mais c'est très, très lourd comme climat. Mais en 3 mois, on est parti. Je crois qu'on a eu l'offre, même moins que ça, je crois qu'on a eu l'offre en avril et lui est parti fin juillet. Donc, ouais, c'était rapide. On s'est mariés du coup à la mairie en 2 semaines.
Vous avez fait une fête, j'imagine.
Non, parce qu'en fait, c'est assez bizarre. On était, en fait, l'histoire est un peu drôle aussi là-dessus. Enfin, notre histoire est drôle, je trouve. On s'est mariés, donc en gros, pour les papiers, pour que je puisse avoir un visa et partir avec lui, parce que lui était sous visa. On s'est mariés, juste avec nos parents, parce que nos parents voulaient être là, mais pour nous, c'était pas notre mariage. Et du coup, en 2016, il m'a demandé en fiançailles. Avec une bague et tout ça. Donc en fait, on s'est refiancés et on s'est remariés officiellement avec la grosse fête et tous les invités en Espagne en 2017.
C'est trop bien.
Ça fait rire les gens que je me sois mariée, fiancée et remariée.
Mais attends, c'est marrant parce que donc du coup pour toi, quelle est ta date de mariage? Est-ce que c'est la date de 2017?
Ouais, c'est 2017. Ouais. Non, c'est 2017. Je sais même plus c'était quand en 2014. Ça devait être le 12 juin peut-être ou je sais même pas.
Tu fais un blocage cérébral. J'ai exactement pareil entre la mairie et notre vrai mariage aussi entre guillemets.
Mais donc, c'était la mairie en France et en Espagne on a fait le mariage à l'église avec toute sa famille, tous ses amis. Enfin, c'était avec le restaurant, la totale, en fait. Ça, c'était mon vrai mariage. Parce que les gens ont du mal à comprendre. Ils disaient, ah, vous êtes déjà mariés. J'ai dit, non, peut-être qu'on est mariés officiellement, mais pour nous, c'est pas notre mariage. Pour nous, c'est juste un papier.
Une sorte de fiançailles. Ouais.
C'est ça.
Nous, je sais qu'on se considérait, fiancés, même si on était déjà mariés, mais.
Ouais, voilà. C'est un peu le problème des expats, en fait, quand tu veux pas, enfin, des expats. Moi, je me considère pas expat. Je me considère plus immigrée aujourd'hui, mais. Ce problème quand tu pars, en fait, tu dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On s'est posé la question. Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on se sépare? Est-ce que tu pars tout seul? Il y a toujours la question qui se pose, en fait. Parce que pour les États-Unis, généralement, le visa, il faut être marié. Enfin, il faut être marié pour avoir le visa.
Mais c'était quel visa en plus, toi, du coup? C'était un E2, non?
L1,
oui, c'était un transfert. Oui, ok.
Ouais, L. Donc, c'était un L.
Donc, ça te permet, toi, de bosser. Ok,
c'est
parfait.
Ça. Moi, j'avais L2. Et on a eu la green card vite, on a eu la green card au bout de 2 ans en fait, donc la carte verte, en français. Ouais. Ouais. Donc on est parti à Boston en 2014.
Et mais tes parents, étant donné quand même que, j'imagine qu'ils sont quand même très famille, notamment par la culture italienne, comment ils ont réagi à ce que leur fille s'en aille?
Alors moi j'étais très très proche de ma mère, vraiment très proche, assez fusionnelle. Et quand je suis partie, ma mère en fait, ça faisait 1 an qu'elle avait un cancer, cancer des ovaires. Et elle était en phase de rémission à l'époque où je suis partie. Donc, c'était pas facile de faire ce choix de partir. Mais en même temps, moi, j'avais vécu 1 an un peu en suspens. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est pas installés ensemble. C'est que moi, je faisais beaucoup d'allers-retours pour être avec ma mère. En fait, j'étais très angoissée par rapport à sa maladie. Et en fait, partir, ça m'a fait un bien fou. Alors, ce qui peut paraître un peu bizarre, mais j'avais besoin pour moi, en fait, de mettre cette distance pour vivre, en fait. Parce que je n'arrivais pas à vivre avec ma mère à côté, sachant qu'elle était malade. J'allais à toutes ces chimios, j'avais vraiment du mal à me détacher de ça, en fait. Donc, du coup, mais c'était pas facile. Mon père, il était content. Il était content que c'était une super opportunité, en fait. L'offre qu'on avait était super.
Oui.
Et puis voilà, mon père, il est lui-même immigré, donc...
Plus pragmatique. Oui. Ouais. Il s'est dit, bon, c'est quand même mieux que les vaches.
Exactement. Il m'a dit, bon, ça va. Non, et surtout que je rentrais très souvent, en fait. On rentre à tous les... À Noël, on rentre à chaque fois. On est toujours rentré à Noël, bon, à part cette année, à cause du Covid. Ouais. Merci, Covid. Et je suis rentrée tous les étés. Depuis qu'on est là, j'ai passé aucun été à Boston. Enfin, j'ai passé un bout de l'été à Boston, mais on rentre tous les étés. Et on rentrait aussi, si on pouvait, des fois en avril ou en février. Donc, ça allait.
Et alors, quand vous arrivez sur place, comment tu t'es sentie ?
C'était mitigé parce qu'en fait, moi, je travaillais à l'époque. Enfin, j'étais en alternance. Donc, j'étais en train de faire une licence pro dans une petite boîte. Une entreprise de bâtiment. J'étais assistante de direction, en gros. Et okay. j'adorais mon chef et ma collègue avec qui je bossais, c'était génial, je les adorais. Mais j'avais besoin de partir aussi, en fait. J'avais besoin de faire autre chose et je me voyais pas toute ma vie sur la Côte d'Azur. Donc c'était mitigé, j'étais contente d'être partie, un peu triste. Et puis surtout, il fallait que j'attende d'avoir le permis de travail, ce qui prend à peu près 3-4 mois. Ouais. Bon, moi, je suis arrivée fin septembre et j'ai eu mon permis de travail fin février, je crois. Donc c'était quand même...
Comment tu t'es occupée alors, du coup, pendant ces quelques mois?
Alors moi, mon objectif, c'était de travailler. Donc, j'ai pris des cours d'anglais intensifs dans une école d'anglais à Boston. Parce que mon anglais était nul. Hein. J'avais un anglais vraiment très scolaire. Ça, c'est encore autre chose que j'ai découvert plus tard. En fait, moi, je pensais que j'étais nulle pour apprendre les langues. Et en fait, après avoir appris en 10 ans, les dernières années, j'ai appris deux langues, l'espagnol et l'anglais, puisque je le parlais très mal. Et
maintenant, c'est une belle perf, hein.
Ouais, très bien. Et en fait, je pense que je suis pas si nulle que ça pour les langues. Et encore une fois, je pense que c'est mon héritage, en fait. Le fait d'avoir grandi malgré tout dans une famille biculturelle avec une autre langue que j'entendais régulièrement. Et j'ai fait ça jusqu'en février, jusqu'à ce que je reçoive
l'EAD. Voilà. L'autorisation
de travail. L'EAD, ouais. J'allais dire EAD, mais ça veut rien dire pour quelqu'un en français. Et du coup, je me suis dit, bon, ma cocotte, là, il faut que tu travailles, quoi. C'est parti. T'as pas le choix. En fait, c'était moi qui mettais cette pression, mais je voulais pas rester... J'avais quel âge ? J'avais 24 ans. Mais 24 ans, je me voyais pas rester à rien faire, en fait. Et du coup, j'ai commencé à chercher du boulot, sauf qu'en fait, donc moi, mon background, c'était assistante de direction. Mais à l'époque, je me sentais pas du tout capable de travailler comme assistante de direction en anglais, en fait. Ça m'effrayait. Je me disais, mais je pourrais jamais écrire un courrier, je suis pas capable. Ça m'effrayait, en fait. Je me sentais pas capable de refaire ce que je faisais à l'époque en France. Et du coup, je me suis rappelée d'un vieux rêve que j'avais d'être prof. J'ai toujours voulu être prof. Alors, parce que la vie comme elle est, je l'ai pas fait. Mais j'ai toujours voulu être prof. Et j'ai une copine, du coup, une très bonne amie aujourd'hui, Cynthia, qui travaillait dans une école, une preschool. Donc, c'est une école maternelle pour la France. Et du coup, ils cherchaient des profs. Et voilà, j'ai commencé comme ça. J'ai été embauchée par la directrice qui était française. Et c'était mon premier travail. Et en fait, c'était parfait.
Et c'est sans expérience professionnelle ou sans diplôme équivalent ? Non.
Alors, le truc, c'est qu'en fait, donc ici aux États-Unis, si tu veux être prof après 5 ans, donc en école normale, en école publique, il faut un diplôme spécifique.
Oui, bon, c'est ça.
Ça dépend aussi des régions. En fait, chaque État américain a son propre diplôme. Mais du coup, pour travailler en école maternelle, il faut un autre diplôme qui s'appelle Child Development. C'est un espèce de petits diplômes que tu passes à la fac. Moi, je l'ai fait en 3 mois. Donc, c'est assez rapide, en fait.
D'accord.
C'est en 3 mois. Et avec ce diplôme-là, en fait, tu peux travailler en crèche ou en preschool, en fait, avant 5 ans. Du moment que c'est pas une école publique, en fait. Voilà. Et donc, en fait, c'est l'école qui m'a payé le diplôme. En fait, donc, je le faisais en cours du soir.
Trop bien.
Ouais. Non, c'était génial. En fait, ils voulaient des Françaises parce qu'il fallait toujours que dans chaque classe, il y ait une prof américaine et une prof française. C'était une école complètement bilingue. Donc, ils cherchaient des Françaises, et c'est pas toujours facile de trouver une Française qui, en plus, maîtrise l'anglais, parce qu'il faut quand même parler anglais avec les familles qui, la plupart du temps, sont américaines. Mmh. Et donc, voilà, et donc, j'ai été prise à l'essai, je crois, en avril, et puis ça s'est très bien passé, donc je suis restée là jusqu'à ma grossesse, donc 3 ans et demi, je crois. Ouais, 3 ans et demi.
Ah ouais, trop bien! Comment ça se passe après pour toi? Tu nous dis que du coup, t'as fait une reconversion pour être prof dans le public ou tu fais toujours dans le. Avant 5 ans ?
Non, maintenant, je suis dans le public, je suis au collège maintenant. Donc, je fais en gros 6e, 5e, 4e, parce que le collège américain s'arrête à la 4e, en fait. La 3e, c'est au lycée, ici. Et en fait, c'est parce que donc je suis tombée enceinte 2017. Et en fait, donc la triste réalité de Boston, c'est que la crèche coûtait plus cher que mon salaire.
Oui,
Donc,
c'est
tu
pas
te
que
dis,
de Boston, hein, t'inquiète pas, c'est à
ouais,
peu près
voilà.
partout.
Voilà. Donc, je sais que dans d'autres villes, c'est un peu moins cher si on part un peu plus. Par exemple, là, nous, on habite aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher que là où on habitait avant. Parce qu'avant, on habitait en gros à Cambridge, là où il y a Harvard et le MIT, donc c'est très cher. C'était entre
Ouais.
2005 et 3005 la crèche qui me demandait. Et moi, je gagnais 2200. Donc, je disais, il faudra que je sorte de l'argent de mon salaire. Enfin, là, non,
Ouais.
le salaire de mon mari, en fait, pour pouvoir aller travailler tous les jours de 8h à 5h pendant que quelqu'un d'autre s'occupe de mon fils. Je ne voyais pas
Ouais,
l'intérêt, en
ça
fait.
pas. Ouais.
Voilà.
Bah si, il y a un intérêt, c'est toi, ton CV, si tu veux le maintenir, en
Oui, c'est
fait.
ça.
C'est ça.
Mais moi, à ce moment-là, je me dis, bon, j'ai fait un enfant, je fais un break, en fait, j'arrête. Et en plus, mon but, c'était quand même, parce que je ne me voyais pas travailler dans cette école toute ma vie. C'était une super expérience quand tu es jeune, c'est génial, mais c'est fatigant. Le salaire n'est pas génial. Et donc, mon but, c'était quand même de devenir prof en école publique. Donc, je me suis dit, bah, écoute, t'arrêtes un an pour t'occuper de ton fils. En même temps, tu fais tes études pour devenir prof. Et quand ton fils a, en gros, un an, 15 mois, bah, tu recommences à travailler, en fait.
Ok, bon, bah écoute, donc à quel moment vous décidez d'élargir la famille avec Pedro?
Juste après notre vrai mariage, du coup, en
Ouais.
2017. Donc après notre vrai mariage en 2017, on décide que c'est le bon moment. Et je tombe enceinte très vite. J'ai beaucoup de chance. Je tombe enceinte un mois après qu'on ait commencé à essayer. Et la grossesse se passe bien. Un peu stressante parce que j'ai travaillé du coup avec les petits. Et ma collègue directe était aussi enceinte, mais elle avait une grossesse difficile. Donc je me suis retrouvée toute seule à 6 mois de grossesse, je crois. C'était pas le meilleur de. J'ai pas beaucoup grossi pendant ma grossesse, ce qui est bon. Au
Tu
final, c'est pas mal,
m'étonnes.
hein.
Ouais, mais bon, c'est quand même. Tu vois, autant il y a des métiers. Ouais, il y a des métiers quand même, tu te dis, genre les infirmières, ce genre de profession où tu te dis, ça doit être quand même chaud patate. Surtout qu'ici, on travaille quand même jusqu'à la fin de la fin de la fin.
C'est ça.
C'est challenging, quoi.
Moi, j'ai travaillé jusqu'à 3 semaines avant d'accoucher, je crois. Donc, j'ai fini ma grossesse et j'ai accouché le 4. D'ailleurs, j'ai accouché le 14 juillet. Une petite histoire
Ah,
pour un petit.
parfait.
Ouais. En fait, c'était soit le vendredi 13, qui n'était pas du tout génial, soit le 14 juillet. Et donc, j'étais là, genre, non, tu ne sortiras pas le vendredi 13. Il est hors de question que mon fils naisse un vendredi 13. Donc, j'ai dit non, non, non. 14 juillet. Mais bon, après, on choisit pas au final, mais.
Non, mais bah c'est super. Et alors, attends, donc j'imagine que si t'as accouché en juillet, donc t'as pu prendre. Vous avez un congé parental dans le Massachusetts? Je m'en rappelle plus.
Moi, je crois que j'avais 3 mois non payés donc dans mon entreprise. Donc, j'avais
Ok.
peut-être que le Massachusetts me donnait à côté, mais pas grand-chose. Mais j'avais 3 mois non payés. Et en fait, moi, j'ai décidé d'arrêter. Donc, de toute façon, j'ai dit, je démissionne et je prends. Et en fait, je suis restée 15 mois avec mon fils. Donc, bon.
D'accord.
Et
Waouh.
mon mari, lui, il a eu 1 mois parce que lui, du coup, il a changé de boîte quand on est à Green Card. Il est passé sur une boîte américaine qui avait à cette époque-là les vacances illimitées. Mais du coup, lui, il a pris 1 mois. Donc, c'était super. Il est resté 1 mois à la maison avec moi. Et après, ses parents sont venus 1 mois aussi. Et mon père est venu 3 semaines. Et après, ma nièce est venue 2 semaines aussi, je crois. Donc, bon, j'ai pas été toute seule les 4 premiers mois. J'avais du monde. Ce qui était bien, au final.
Ok. Ouais, donc toi, t'étais contente parce que j'ai l'impression que tout le monde me dit j'ai eu du monde à la maison, mais c'était quand même beaucoup plus de travail et j'aurais peut-être préféré être toute seule.
Ouais. En fait, on avait fait exprès de laisser 1 mois. En fait, on a fait 1 mois que nous deux. Parce que je voulais
Ok.
personne le premier mois. Je me dis, je vais avoir les seins à l'air. Parce que moi, j'ai allaité. En fait, je vais avoir les seins à l'air, les seins qui font
C'est
mal, le
ça.
postpartum. J'avais pas envie, en fait. Et du coup, ses parents sont arrivés après. Bon, finalement, c'était pas beaucoup mieux. Parce que mon fils avait un frein en plus. C'était pas facile, l'allaitement. Il était allergique au lait. Bon,
Aspirio. Vous
ouais.
l'avez coupé, non? Non?
Oui, on a coupé le frein. Ouais. On a coupé le frein.
Ouais.
C'est pas possible. Et en fait, mon fils est allergique au lait, à la protéine de lait de vache. Donc, de toute façon, moi, je voulais allaiter. Parce que le
Ouais.
lait ici, pour allergique, quand tu regardes les ingrédients, t'as
Ouais,
pas envie de donner ça.
fait une sacrée potion chimique.
C'est du sirop de maïs, en gros. Donc, moi, je me dis non, je me suis mis la pression en me disant il faut que j'allaite parce qu'il est allergique au lait de vache. Et là, pour le coup, il n'y a pas de lait meilleur que le mien, pour le coup. Parce que je pense que le lait en poudre
Ouais.
normal, ça va. Le lait pour allergique aux États-Unis, c'est horrible, quoi. Ah, moi, je suis intolérante au lactose, déjà. Donc, bon, on n'était pas très étonnés quand en fait,
Ouais.
on a découvert du sang dans ses selles quand il avait 1 mois, je crois. Donc, c'est comme ça qu'on a détecté qu'il était allergique au lait. Donc, du coup, ça a été dur pour moi parce que moi, pendant 6 mois, du coup, non, même plus, presque 1 an, j'ai pas mangé de lait du tout. Donc, aucun produit laitier, même sans lactose. Pas de fromage, pas de lait, rien.
Wow.
Et
Ouais.
comme il avait des allergies croisées, on a mis du temps à ce qu'il ait plus de sang dans les selles. J'ai arrêté la viande rouge, les œufs, le soja.
Ah ouais, la vache.
J'étais bien contente en fait de ne pas travailler, d'avoir pris un an pour lui parce que il aurait été
Ouais.
malade comme ça, je me serais. Ça aurait été horrible en fait pour moi, je pense.
Ouais, et puis
Parce
toi,
que.
avoir l'énergie quand même, calorique et mentale, hein,
C'est ça,
de gérer les deux en même temps,
ouais.
purée.
Mais finalement, c'était une belle histoire d'allaitement parce que je l'ai allaité 18 mois, je crois. Donc, ouais, 18
Oh,
mois.
purée,
Donc finalement,
incroyable.
ouais, ça a été une belle
Et
histoire
avec
de.
le frein, t'as pu le remettre au sein ou t'as tiré ton lait du coup?
Le frein, j'ai tiré mon lait pendant un moment parce que c'était horrible. En fait, il
Ouais,
hurlait au sein.
affaire. I
Et après,
know.
j'ai. Ouais, voilà, c'était horrible. Moi, j'étais en larmes, il était en larmes, horrible. Et en fait,
Ah
c'était.
oui, ben c'est pour ça que moi j'ai complètement arrêté de le mettre au sein. Je fais bon, bah je vais aller au tire-lait parce
Ouais.
que là, avec sa tronche à essayer de prendre
C'est
le...
ça, ouais.
Non
Et
mais
il
on
hurle.
en rigole
C'est horrible.
aujourd'hui, mais
Ouais.
c'était pas rigolo quoi.
Non, non, non. Moi, j'ai des vidéos où il hurle parce que je l'envoyais à ma conseillère en lactation, une Française qui habite aux États-Unis, d'ailleurs, qui est spécialiste en frein. Si tu veux, je te donnerai son nom si tu veux la mettre dans les recommandations. Elle est géniale.
Carrément.
C'est elle qui m'a du coup détecté le frein par Skype de mon fils quand même. Quand deux conseillères en allaitement et les sages-femmes m'ont dit qu'il n'avait rien ici quand même.
Ah
Quand
ouais,
même. Donc,
même le
ouais.
attends, même le pédiatre, parce que moi c'est le
Ah ouais.
pédiatre qui l'a détecté direct, hein.
Ils m'ont dit non, il n'a pas de frein, je vous êtes sûre, parce que dès la maternité, je sentais qu'il y avait. Il n'attrapait pas mon frein bien, en fait. Il prenait que le téton. Je voyais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Enfin.
Ouais.
Et du coup, il avait frein de lèvres et frein de langue. Donc, on lui a coupé. Mais en fait, après, le truc, c'est qu'il y a des exercices à faire pour que le frein ne se réattache
Oui.
pas. Et du coup, j'ai été voir une chiropracteur, pareil, de Boston. Si tu veux, je te donnerai son nom. Génial aussi. Qui est spécialiste en ça. Et en fait, grâce à elle, à des exercices avec lui, en fait. Grâce à elle, mon allaitement, il a été sauvé. C'est-à-dire qu'après, à partir de ces 3 mois, je crois, on était parti.
Eh ben, t'as eu bien du courage, hein. Je me suis pas donné
Ouais.
3 mois.
Ouais, mais c'est parce qu'en fait, comme il est
En
allergique
3 semaines,
au lait.
c'est pas possible, quoi. On va pas
Ouais.
s'en sortir. Donc,
Non, mais je comprends. Moi, je pense que c'est le fait qu'il était allergique au lait, en fait. Je me sentais un peu comme bloquée, qu'il fallait absolument que ce soit mon lait et
ouais,
rien
c'est
d'autre, en
vrai.
fait.
C'est
Et je pense
vrai.
que j'aurais pas réussi à le faire téter, j'aurais tiré mon lait pendant un an, je pense. Parce que je voulais pas le donner ce lait en poudre, là. Ouf.
Après, il y a quelques marques quand même, ça va, hein. On
Ouais,
a
mais en
quand
tout
même fait
cas,
des
ouais.
recherches. Je sais qu'il y a, beaucoup de... On en parle, hein. Enfin, j'en parlais au bureau avec des anciennes collègues qui... Il y en avait une en particulier qui faisait des livraisons de lait. Je ne sais plus quelle est la marque. Je crois que c'est une marque germanique,
Ah
allemande.
oui, c'est pas hip.
Oui, donc je sais qu'il y a un black market où en
Oui,
fait,
il y
c'est
a un
pas
black market,
reconnu par le FDA. Et
oui.
donc, en fait, tu peux c'est pas que tu peux finir en prison, mais ils peuvent rentrer en possession de ton lait en poudre. Enfin, il y a
Ouais.
vraiment un black market sur les laits en poudre.
Oui.
T'es
C'est ça.
assez
Ouais.
bizarre.
Moi, j'avais une amie qui allaitait pas et qui a découvert une fois qu'elle avait décidé de pas allaiter que son fils était allergique. Et du coup, elle faisait venir le lait en poudre de France par son père qui était pharmacien. Mais du coup, c'est pareil.
Ouais.
Enfin, j'ai même des amis qui ont leur enfant n'était pas allergique, qui avait un lait normal et qui faisaient quand même venir le lait de France parce que les compositions sont meilleures en France. Même pour le lait
Ouais.
normal, les compositions sont meilleures. Mais moi, j'étais en plein postpartum et je me disais quelle angoisse si en plus je dois me faire livrer le lait, qui va me l'envoyer? Enfin,
Et puis imagine, il vient pas, il y a
c'est
un
ça.
problème d'inventaire. J'étais dans le même état d'esprit. On est quand même parti sur un lait, après 6 mois, sur un lait américain,
Ouais,
qui est
de
de
toute
la
façon.
marque Baby Only ou je sais plus quoi.
Ouais. Moi, celui qu'elle m'avait donné, c'était Similac. Alors, c'est la boîte violette de Similac,
Mais
mais la
celle-là, je
composition.
crois que c'est. Elle est remplie de sucre pour le
C'est
coup, je
ça.
crois,
Ouais.
celle-là.
Et la composition, c'est ce que tu sais, que la gastro-entérologue m'a donné d'ailleurs. Enfin, qu'elle m'avait donné au cas où. Mais la gastro me disait clairement, bon, si vous pouvez allaiter, c'est mieux quand même. Même la gastro te dit,
Ouais.
c'est le lait que je vous fournis, mais bon, je sais pas. En fait, je me suis accrochée, ça a marché, donc je me suis dit, bon, je me dis,
Mais c'est trop
si.
bien.
Ouais, si vraiment ça n'avait pas marché, je pense que j'aurais pas été non plus à m'obséder à affamer mon fils et j'aurais arrêté l'allaitement et il aurait eu du lait en poudre américain et il aurait survécu comme plein d'autres enfants ont survécu. Mais bon, dans la mesure où ça a marché, je me suis dit, bon, bah, ça marche, autant continuer, en fait.
Ah ouais. Non, mais c'est bien, 18 mois, c'est trop, trop bien.
Ouais, non, c'était cool, c'était une belle expérience.
Alors, attends, donc oui, donc tu as de la famille qui vient te voir. Mais alors donc du coup sur le long terme, comment tu vis le fait d'avoir eu de développer toi ta propre famille en étant loin de la tienne? Comment
Ça, c'est
vous le vivez tous les
difficile.
deux?
Ouais, ça, c'est très
Ouais.
difficile. Surtout de. Enfin, avant qu'on ait mon fils, on se voyait bien rester encore quelques années. Bon, on était en mode, c'est cool, les États-Unis. Et puis, dès qu'on a eu mon fils, ça a changé nos plans. Parce qu'en fait, on a ce sentiment un peu, ouais, presque viscéral qu'on a envie que notre fils connaisse sa famille, en fait. Qu'on n'a pas envie que. Parce qu'en fait, le truc, c'est que nous, aucun de nous est américain, en fait. Donc, ici, on n'a vraiment pas de famille. Je pense que toi, c'est différent. T'as la famille de ton mari. Donc. Tu vas
Ouais.
sentir qu'au moins ton fils, il est connecté à une partie de sa famille. Mais nous, en fait, ici, il est connecté à personne. Il est connecté à nous, en fait. Parce que nos
C'est
deux
pas mal.
familles, c'est ça, nos deux familles sont loin. Et en plus, mon frère vit au Luxembourg. Le frère de mon mari vit aussi sur la Côte d'Azur. Le reste de sa famille est en Espagne. Donc,
Ouais, c'est un peu éparpillé.
c'est pas facile, mais c'est l'avantage d'être prof. Moi, j'ai les 2 mois de vacances d'été. J'ai les vacances à Noël, donc qui sont courtes ici, mais j'ai les vacances à Noël, les vacances en avril, je crois. Je sais même plus quand, mais avril ou février.
Oui, le spring break.
C'est ça. Donc, du coup, on peut quand même rentrer souvent. Et mon mari, en tant qu'ingénieur, il peut travailler à distance, comme il veut, en fait. De toute façon, sa boîte n'a pas de bureau aujourd'hui. C'est une boîte complètement, à distance. Donc, on a quand même la chance de pouvoir rentrer. On rentre tous les étés. Normalement, on rentre toujours à Noël. Mais on a ce sentiment en nous, un peu, qui grandit de se dire, ah, notre fils, il est loin de sa famille. Et au final, qu'est-ce qui compte le plus? Notre vie ici ou que notre fils soit prête, notre fils et nos futurs enfants soient proches de leur famille et qu'ils connaissent leur culture, en fait. Parce que finalement, les États-Unis, ou même s'il est américain, c'est pas la culture que nous, on lui transmet au quotidien, en fait. Donc,
Comment vous vous en sortez alors? Parce que là, on est sur un plan familial à 3 langues, c'est ça? Donc, il y a l'espagnol, le français et l'anglais.
Alors pour moi c'était très très important que mon fils parle français parce que je voulais qu'il puisse communiquer avec sa famille justement vu que je suis très famille. Et pour mon mari c'était la même chose, il voulait que son fils parle espagnol pour communiquer avec sa famille. Et du coup moi je lui ai parlé français très tôt. Je pense que j'étais enceinte, je lui parlais déjà. Mon mari lui parlait déjà aussi dans le ventre en espagnol. Et quand je suis restée à la maison avec lui, moi je suis quelqu'un qui lui parle beaucoup de nature donc je parlais beaucoup à mon fils en fait. Je lui racontais ma vie. De toute façon j'étais toute seule avec lui à
Petit
la maison
monologue.
donc ça.
Non, mais
Viens, on va
t'inquiète,
faire
on fait
ça.
tout. Alors
C'est ça.
attends, là, je me brosse les dents.
Exactement. Je passais ma journée à lui parler, en fait. Et donc, à l'époque, mon mari travaillait encore dans une boîte avec des bureaux. Donc, il le voyait moins, puisqu'il rentrait le soir et puis le week-end. Et curieusement, le premier mot de mon fils, bon, ça a été maman, bien sûr. Je pense que c'était maman, d'ailleurs, je crois, et papa. Mais le premier mot, ça a été pato, qui est canard en espagnol.
Trop
C'est là, genre,
marrant.
gars, t'es sérieux? Je suis restée 15 mois avec toi et ton premier mot, c'est un mot espagnol, quoi. À cause des canards en plastique jaune là qu'on a dans le bain, tu sais, il y a des animaux en plastique du bain
Je croyais que c'était un parc où vous alliez vous promener,
Non,
quoi.
non, pas tôt,
Même
ça
pas
veut dire canard en
le
espagnol. Ouais, c'est à cause du
canard
canard jaune de la baignoire.
Trop marrant.
C'était son premier mot en espagnol. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que directement, je disais la traduction en français. Je disais, ah, bah, en français, on dit canard. Tu dis canard? Bon, au début, il respectait pas du tout, hein, parce qu'il avait, je crois qu'il avait 14 mois ou 13 mois quand il a dit pato, donc,
Ouais, c'est ce que
bon.
j'allais te demander parce que nous, il n'arrive pas. Tu vois, autant tu peux t'inquiéter, mais en fait, on s'inquiète pas parce qu'on se dit, il a quand même énormément de vocabulaire parce que le gamin, il arrive à te pointer quand tu lui dis
Oui.
une citrouille ou quand tu lui dis une pumpkin, quand tu lui dis un avion ou un airplane. Enfin, tu vois, et le fait qu'il arrive quand même un arbre, un tree, voiture, car, tu te dis, putain, il a quand même énormément de vocabulaire, quoi.
Ouais, mais en
Après,
fait,
c'est normal que dans son cerveau, il doit se dire, attends, à qui je parle quoi?
c'est ça, ouais. Au début, c'est difficile. Alors, moi, on m'avait souvent dit, tu verras, il parlera plus tard avec les 2 langues. Mais en plus, il allait à la crèche pas top 15 mois. Donc, avec les 3 langues, il va se perturber, il va parler plus tard. Pas du tout. Nous, il a parlé très tôt, d'ailleurs, j'étais étonnée. Et du coup, moi, très tôt, j'ai commencé à lui toujours le dire, OK, bah, en français, on dit canard. Et puis, quand son père, je sais pas si un jour, il disait devant voiture, automatiquement, mon mari allait lui dire en espagnol.
Coaché, c'est ça, non?
Coaché. Ou, ouais, coaché,
Wow,
exactement.
j'ai des
Ou même
restes.
moi, des fois, si mon mari n'est pas là, je glissais en douce le mot en espagnol. Parce que normalement, on est censé, moi, parler que français et mon mari que espagnol. Et puis, on appelait la belle famille aussi en Espagne. Donc, bon, quand on appelle la belle famille en FaceTime, bon, bah, automatiquement, je parle espagnol, parce que sinon, ils comprennent pas. Donc, il a entendu beaucoup de langues. Et en fait, je pense que la chance qu'on a, on a 2 chances. La chance qu'on a, c'est que le français et l'espagnol, aucune des 2 langues est la langue du quotidien du pays où on vit. Je sais pas si tu vois ce que je
C'est
veux dire.
vrai.
Toi, c'est l'anglais, donc il y a une chance que ton fils, un jour, il parle plus anglais que français, puisque finalement, l'anglais, c'est la langue aussi de sa vie à l'extérieur.
Oui.
Et la deuxième chance qu'on a, c'est que mon mari et moi, on parle tous les deux français et espagnol. Donc, ça veut dire que
Oui.
quand mon mari parle espagnol, en fait, moi, je
J'ai pas un
comprends.
monologue.
C'est ça. Et en fait, même aujourd'hui, d'ailleurs, ça fait toujours. Une fois, je me rappelle, on était dans un magasin à la caisse, je crois que c'était Whole Foods. Et donc, mon mari me parle en espagnol et je lui réponds en français. Et je me rappelle la tête de la caissière qui s'arrête, qui regarde mon mari, qui me regarde, qui regarde mon mari comme ça et qui me regarde. Je lui dis, mais vous parlez quelle langue là? Qui comprenait pas pourquoi en fait on se parlait dans 2 langues différentes. Mais en fait, nous, on s'en rend même pas compte. Et moi, quand il me parle espagnol, c'est comme s'il me parlait en français en fait. Je pourrais même pas te dire s'il me parle en français ou en espagnol. Mon cerveau, il ne fait
C'est
même plus
devenu
le.
tellement un automatisme. C'est bien, hein?
Ouais.
C'est un beau poème à avoir.
Mais je pense que si on veut vraiment avoir un enfant bilingue, c'est important que les deux parents parlent les 2 langues justement pour que ça soit pas un problème à la maison. Si toi tu parles en français et qu'il comprend rien à table de ce que tu dis en fait. Du coup, au moment, tu seras obligé de parler
Ouais.
en anglais pour que le repas soit dynamique pour tout le monde en fait.
Oh, moi, j'ai perdu. Non, tu vois, je me suis dit tant pis pour le papa. Je veux dire, si.
Dès qu'elle apprend le français et puis voilà.
On fera trash talk him plus tard avec les deux. Il
Exactement.
s'en rendra même pas compte.
C'est drôle. En bas, c'est pas mal ça aussi pour dire des petits secrets comme ça. Pour pas être
Exactement. Non,
rien.
je me dis tant pis pour lui. Moi, j'ai fait l'effort d'apprendre l'anglais. Il a raté le coche, c'est pas grave. Mais non, ça va être rigolo.
Bon, bah, nous, on a cette chance-là, en fait, que les deux,
Non, non, mais vous
on
avez
parle.
bien fait. Je me moque de mon
Ouais.
mari, mais vous avez très,
Non,
très
mais
bien
oui.
fait.
Bon, après, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont en couple avec des Américains et ça leur arrive souvent que le conjoint baragouine un peu de français mais n'apprenne jamais complètement le français. Et ils me demandaient souvent, mais comment t'as fait, toi, pour apprendre? Je dis, bah, je sais pas, j'ai juste parlé. Enfin, j'avais envie d'apprendre, en fait. J'ai juste parlé et puis tu fais des erreurs
Oui.
au début, tu te trompes et puis un jour tu te trompes plus, en fait. Il faut juste se lancer,
Oui, non, je
avoir
pense qu'il
peur.
faut de la volonté. Et si la volonté, tu l'as pas, nécessairement, tu feras jamais d'effort,
Ça, et
clairement.
puis nous, moi je l'ai appris à l'époque où j'étais jeune, j'étais étudiante, c'était les classes aussi. Je pense que c'est différent de l'apprendre, c'est-à-dire des enfants par exemple, si ta relation démarre très rapidement, que si nous ça fait 10 ans qu'on est ensemble et on a eu notre premier enfant après 8 ans de relation en fait. Donc j'ai eu du temps avant d'apprendre, non, j'ai du temps pour apprendre l'espagnol, pardon.
Mais alors donc du coup Lucas, tu penses que là il est on en est à combien en termes de pourcentage?
C'est difficile à dire, peut-être 60-40? Non, et encore non. En fait,
Ben non,
il a
t'es aux
quasiment.
trois langues.
Alors, l'anglais, non, pardon. L'anglais, pardon. L'anglais, en fait, donc il a commencé la crèche à 15 mois, donc en octobre 2019. La crèche a fermé en mars pour le Covid, donc bon. Je pense qu'il
Ouais.
a pas, il parlait pas anglais du tout. Enfin, il disait quelques mots en
Oui,
anglais.
il a dû
Ouais.
perdre l'anglais très clairement.
Et là, il retourne à la crèche depuis septembre, et le petit malin, c'est qu'il a découvert que sa prof comprenait un peu l'espagnol. Donc, le
Oh
petit malin
non!
lui parle en espagnol. Bon, elle dit qu'il commence à dire des mots en anglais. Hein. Hier, il m'a sorti tomorrow, par exemple. Et je lui ai dit, bah oui, ça veut dire demain, Lucas. Non, tomorrow, je dis, oui, ça veut dire demain en anglais. Donc, il entend des mots. Je pense que l'anglais, il est clairement à 10%. Il est complètement en train d'apprendre. Ou alors, en fait, le truc aussi, c'est que mon fils ne déteste quand moi, je parle espagnol, mon mari parle français. C'est-à-dire que si moi, parce que je sais pas, on lit une histoire et qu'elle est en espagnol et que je lui parle en espagnol, il me dit, non, maman, toi, en français. Et c'est pareil à son père. Donc il veut pas du tout qu'on parle l'autre langue. Et il me fait pareil avec l'anglais. Quand je parle anglais avec lui, parce qu'il y a une histoire ou une couleur, il me dit, non, anglais, maman, à la crèche. Toi, en français. Donc
C'est trop marrant.
il a très bien compris. Et ça, c'est un truc que je conseille aux gens. C'est que, en fait, dans l'école où je travaillais, du coup, la preschool, j'avais une petite fille qui était complètement bilingue, espagnole-anglais. Ses parents étaient espagnols. En fait, elle avait aucune conscience qu'elle parlait espagnol. Puisqu'un jour, je lui dis, oh, tu parles espagnol. Elle me dit, non, je parle comme papa et maman. En fait, elle avait aucune conscience que la langue qu'elle parlait, c'était une autre langue, en fait. Et que la langue de la crèche, c'était deux langues différentes. Et du coup,
Ouais.
moi, très tôt, j'ai expliqué à mon fils, en fait, je lui dis, maman, elle parle français et papa, il parle espagnol. Et comment on dit ça en français? Et comment on dit ça en espagnol? Je mets toujours le mot de la langue, en fait.
Ouais, c'est marrant parce que moi, de ce que j'avais lu, c'est que genre apparemment dans leur subconscient ou je ne sais quoi, ils savaient pertinemment qu'il y avait deux même dans ton ventre, ils savent qu'il y a deux distinctions, genre mon parent parle telle langue et l'autre parent parle telle langue, tu
Mais
vois.
je l'avais
Mais
déjà vu aussi, mais cet enfant, elle n'avait pas conscience. En fait, je pense que ses parents, comme ils étaient tous les deux espagnols, ils lui avaient jamais dit tu parles espagnol. En fait, il parle espagnol à la maison et puis basta, en fait, il parle espagnol.
Ouais.
Et du coup, elle n'avait pas conscience que la langue s'appelait. Enfin, elle avait conscience qu'il y avait deux façons différentes de parler, mais elle ne pouvait pas mettre un mot et dire ça c'est
Je
l'espagnol et
vois,
ça c'est
je
l'anglais.
vois.
Et du coup, moi, j'ai fait ça très tôt avec mon fils, depuis le début, je crois. Soit elle dit, et comment on dit en anglais? Non, pardon, comment on dit en espagnol? Et comment on dit en français? Et je le fais toujours aujourd'hui, hein, quand
Ma
il me.
pauvre, c'est mon petit perle.
Ouais. Mais aujourd'hui, enfin, ce qui est marrant d'ailleurs, et c'est un truc que je trouve assez incroyable dans les enfants qui apprennent deux ou trois langues. Je dirais qu'il parle un peu mieux espagnol parce que mon mari est celui qui lui lit surtout le plus d'histoires. Donc il a un vocabulaire un peu plus développé en espagnol aujourd'hui, hein,
Ouais.
on va dire aujourd'hui. Et des fois, quand il sait pas comment me dire un mot en français, il va me dire par exemple, maman, est-ce que je peux limpier le verre? En fait, limpier, ça c'est limpiar en espagnol,
Nettoyer.
c'est
Ouais.
nettoyer. Mais en fait, il sais pas dire nettoyer en
Ah,
français.
c'est trop
Et du
marrant.
coup, il va prendre le mot limpiar et il sait en fait exactement comment faire pour que le mot ressemble à un mot français.
C'est trop drôle.
Ouais. Et quand il a commencé à faire ça, je dis non, mais c'est incroyable les cerveaux des enfants en fait. Enfin, moi, c'est limite du génie en fait, mais c'est juste que c'est leur cerveau à eux qui ont capté en fait les sons. Et il me fait ça avec
Ouais.
beaucoup de trucs. J'ai plus d'autres exemples, mais ouais. marcher, au lieu de me dire marcher, il va me dire ande, andar, mais je lui dis non, Luca, en français on dit marcher.
Ande.
On dit pas ande. Il fait ça avec plein de mots quand
il va dire manana.
Ça, quand il connaît pas les mots, il dit bah, écoute, je vais le transformer en quelque chose qui ressemble au français, ça va passer comme ça.
C'est trop marrant.
Ouais.
Après, c'est peut-être genre propre à chaque individu. Hein. Je sais que on a notre petite nièce qui est 100% dans une famille américaine. Enfin, donc du coup, il parle que l'anglais et elle a commencé à parler à 2 ans, quoi. Donc,
Non, ça dépend. Alors, on va dire que nous, jusqu'à ce que... alors, malheureusement, on a dû rentrer en Espagne 3 mois cette année, au mois de mai, parce que mon beau-père est décédé. Donc, on est rentré en plein pendant le confinement, ouais, en mai. Et du coup, il parlait déjà bien. Mais quand je regarde les vidéos du mois de février-mars, c'est surtout des mots, en fait. Il disait baile, danse, manger ça, je veux de l'eau, des mots très simples. Et quand on a été en Espagne et qu'on a passé du temps, du coup, avec la famille de mon mari, il a complètement explosé en langage, en fait. Mais explosé. Donc, les voyages en France, c'est important, je pense aussi. Et d'ailleurs, mes amis qui ont des enfants ici me le disent souvent, quand elles vont en France, les gamins, ils explosent, quoi. Ils progressent énormément. Après, je pense que c'est juste que nous, c'était très important qu'ils parlent nos langues à chacun, en fait. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Mais je pense que chaque parent et chaque famille a une priorité différente. Et je pense qu'il y a des familles où peut-être, finalement, le bilinguisme, c'est important, mais pas.
Ouais.
C'est pas aussi important que nous. Mais nous, c'est surtout le lien avec la famille. On est très famille. Donc, je pouvais pas imaginer mon fils qui ne communique pas avec sa propre famille, en fait. Et aussi parce que ça, c'est mon histoire à moi aussi. C'est-à-dire que moi, je me sens toujours très illégitime de dire que je suis italienne, que je parle pas italien. Et même aujourd'hui, à 30 ans, j'ai un problème d'identité énorme. Je me dis, je suis quoi, en fait? Et je me suis toujours dit, je veux pas ça pour mon fils. Déjà qu'il a 3 passeports, 3 nationalités. Si au moins il peut parler 2 langues sur 3 parfaitement, et l'anglais, il apprendra forcément où qu'on soit dans le monde à l'école. Bon, au moins, il pourra se sentir qu'il fait partie un peu partie de ses cultures. Et on essaye aussi à la maison on fait des crêpes, on fait des plats espagnols, on fait des petit chanceux, il a le Père Noël et les rois mages, parce qu'en Espagne, c'est les rois mages qui amènent les cadeaux.
Bah, dis donc.
Ouais, on essaie de faire toutes les traditions et toutes les fêtes pour qu'ils se sentent pas...
Ouais.
Bon, après, on verra.
C'est trop bien.
On verra ce qu'ils
font. Oui, et puis, encore une fois, je pense que... Je sais. Oui, la langue, ça définit ta nationalité, mais est-ce que ça définit ton identité? Je sais pas.
Non.
Tu vois.
En tout cas, moi, ça m'a beaucoup manqué. Mon objectif, c'est d'apprendre l'italien un jour. Moi, ça a été un truc un peu conflictuel pour moi. Surtout qu'aujourd'hui, je parle espagnol et je parle pas italien. C'est presque ridicule. Enfin, c'est pas ridicule, mais c'est curieux.
Mais je pense
qu'à
partir de... Je crois qu'on en parlait dans l'épisode de Valérie où, tu vois, un de ses enfants se considérait américain, l'autre peut-être plus français... Ouais. Tu sais pas où tu vas piquer, en fait.
Non, puis ça dépend où tu vis aussi. Si on reste aux États-Unis, peut-être que mon fils, à l'adolescence, il se sentirait américain. Après tout, c'est tout ce qu'il aura connu. Enfin, pas non plus lui retirer. Par contre, si on rentre vivre en Europe, certainement en Espagne, je pense qu'il se sentira un peu plus espagnol que français et américain. Ouais. Mais d'un côté, ça me dérangerait, moi. C'est aussi ce sentiment bizarre que moi, j'ai peur un jour, vu que ni mon mari et moi, nous sommes américains pour l'instant, mais on va le devenir dans les 2 ou 3 ans à venir, je pense. Mais on restera toujours d'abord français et espagnol, et on avait toujours ce sentiment d'avoir un peu peur d'un jour de se réveiller et de voir notre ado de 16 ans qui en fait est un ado américain, en fait, avec une culture plutôt américaine qui nous ressemble finalement pas beaucoup puisque nous c'est pas notre culture première. C'est un peu bizarre comme sentiment, donc on s'était dit qu'on préférait peut-être qu'il soit plus espagnol ou plus français, donc que rentrer en Europe ça pourrait être une possibilité. Et je pense que c'est parce que ni lui ni moi on est américain, en fait.
Ouais, ça me fait une belle transition parce que donc du coup, quels sont vos projets là? Donc du coup, sur moyen long terme, est-ce que vous comptez rester aux États-Unis? Est-ce que vous comptez rentrer en Europe?
On va rentrer en Europe, je pense. Alors les deux raisons principales Alors moi, j'ai perdu ma maman du coup de son cancer en 2016. On a perdu mon beau-père d'un cancer cette année aussi. Et on va dire que ça, c'est des choses qui te font réfléchir, en fait. Plus le Covid, plus plus avoir un enfant. Tu te demandes qu'est-ce qui est vraiment important, en fait. Est-ce que c'est vraiment important de vivre ton rêve d'expat? Oui, c'est important et c'est génial et c'est une super expérience. Mais est-ce que c'est pas aussi important d'être proche de ta famille qui, au final, n'est pas éternelle? C'est-à-dire que les gens qui me restent aujourd'hui ne sont pas éternels, quoi.
Après, je pense que c'est le gros débat des expats. J'ai l'impression que tu as les expats qui suivent leur conjoint, mais où il y a un attachement toujours très intense avec sa famille. Et tu as l'expat où il y a une rupture familiale et qui l'a poussé en fait à partir. Moi, je me vois plus dans le deuxième cas, par exemple. Et tu vois, je me dis, Oui, j'ai dû enterrer énormément de membres de ma famille. Mais je me suis dit, ces membres de ma famille, je pense pas en tout cas que ma grand-mère ou mon grand-père, ils auraient aimé que genre je reste en France juste pour rester à côté d'eux. Tu vois, je pense
Ouais,
qu'ils se
je
seraient
comprends.
dit, non, non, mais vis ta vie. Et,
Ouais.
parce que la nôtre, on l'a déjà vécue, entre guillemets, tu vois.
Mais je pense que tu
Mais.
vois, moi, mon mari, on serait américain avec la famille ici, il y aurait plus de chances qu'on reste ici. Et là, le fait que les
Ouais.
deux ont notre famille qu'en
Oui.
Europe, en fait, je pense que c'est difficile. Surtout que mon mari a une très grande famille avec plein d'oncles et tantes, plein de cousins qui ont aussi maintenant des enfants dont on est assez proche. Donc du coup, on aimerait bien rentrer, mais on attend d'être américain pour pouvoir rentrer parce que déjà notre fils est américain et on a envie d'être américain parce que ça fait quand même six, enfin,
Ouais.
ça va faire 6-7 ans qu'on est là, on adore ce pays et rien ne dit qu'on va pas revenir ici un jour. C'est-à-dire mon fils, il est
Oui, et
américain.
puis ce serait bête là de perdre la carte
C'est ça.
verte proche du
C'est
but,
ça.
quoi.
C'est ça. Et nous,
Parce
on
que la
adore les
carte verte,
États-Unis.
quand tu pars du pays pendant plus de 6 mois,
Ouais.
elle est finie. Donc
Faut
c'est
revenir
ouais,
tous
ce
les
serait
six mois.
dommage.
Ouais. C'est dommage. Et puis surtout, on adore les États-Unis. Enfin, moi, les États-Unis, ils m'ont donné, c'est horrible ce que je vais dire, peut-être, mais plus que ce que la France m'aurait pu me donner. C'est-à-dire, j'aurais jamais pu être prof en France. J'aurais jamais pu changer de
Ouais.
carrière comme j'ai changé de carrière ici. On a acheté la maison, on a acheté une super maison. On a un niveau de vie qui est meilleur à ce qu'on aurait pu avoir si on était resté en France. Donc, les États-Unis nous ont donné énormément. Et je pense que c'est une façon aussi pour nous de remercier en disant, bah, on devient américain. Partie de ce pays, si on rentre, on paiera les taxes qu'il faut payer. Enfin bref, tu vois, ce côté un
Oui,
peu.
je vois bien.
Donc on attend d'être américain. Mon mari travaillant dans l'informatique, il y a de grandes chances qu'il puisse rentrer avec sa boîte américaine. Enfin, on ne sait pas encore, on n'a pas demandé exactement les détails, mais c'est une boîte qui n'a pas de bureau fixe. Donc, ou même chercher une autre boîte américaine qui s'en fiche de où il travaille, en fait, ce serait l'objectif de rentrer avec du coup
Oui.
une boîte américaine. Et ouais, on aimerait bien rentrer en Espagne. On adore l'Espagne. Moi, du coup, je serais encore un peu expat, en fait, enfin immigrée. Donc moi, ça m'éclate. Même si je
Mais
connais
ça te
bien l'Espagne.
rapproche largement de Luxembourg ou
C'est ça. Ouais.
de la pardon,
De
Côte d'Azur.
Côte d'Azur, ouais. Ça me rapproche
Ouais.
beaucoup. Peut-être qu'un jour, on viendra aux États-Unis, en fait. C'est
Ouais, ou
difficile de
ailleurs, hein.
savoir. Ouais, ou
Who
ailleurs. Ou ailleurs, moi, je me verrais bien. Et puis, l'Europe me manque aussi un peu, je pense. Les voyages en Europe, plein de pays que finalement, j'ai envie de découvrir en Europe.
Oui, c'est clair. En fait, en quittant l'Europe, tu te dis, mais mince, en fait, j'aurais trop dû faire ces pays-là,
C'est
quoi.
ça, ouais. C'est dans après les États-Unis, c'est tellement beau. Moi, je vais aller à Hawaï, par exemple. J'ai pas fait Hawaï. Il faut que je fasse Hawaï avant
Ah
de
ouais, faut
partir.
aller faire Hawaï.
J'ai pas
Ouais.
fait l'Alaska. Je rêve de faire l'Alaska. Enfin, il y a plein d'endroits que. En fait, on adore les États-Unis. On adore Boston, même si c'est cher, même si. Mais il y a des trucs qui te freinent. Quand t'as une famille, c'est cher. Les études sont chères pour les enfants. La santé coûte cher.
Ouais.
Ta famille est loin. Moi, mon frère a 40 ans, mais il a 4 enfants, dont un bébé qui vient de naître. C'est-à-dire, bon, tu avais plein de moments. Puis, je pense que le Covid aussi te fait réfléchir. T'as dit, tu peux pas rentrer comme tu veux. Mais encore une fois, je pense que l'un de nous deux serait américain avec de la famille ici. Ce serait différent. Parce que du coup, on serait partagé, en fait. Ce serait très différent.
Ouais, faut voir chaque projet de famille, hein.
Ouais.
Après, c'est pas parce que tu pars dans un pays que tu t'es enchaîné à ce pays, quoi.
Non, c'est ça, exactement. On n'est pas enchaînés. Et puis après, mon mari, finalement, ce qui est drôle, c'est qu'il a jamais travaillé en Espagne. Il résidait que dans l'Espagne. Il a commencé à travailler en
C'est
France.
marrant, ça. C'est
Ouais.
vrai, ça.
Moi, il travaille pour deux boîtes. Il a travaillé pour deux boîtes américaines. Donc, il a jamais travaillé en Espagne. Bon, finalement, si on rentre, il travaillerait peut-être pour une boîte américaine. Mais quand même, enfin, ça fait, Marie, ça va faire peut-être 10 ou 15 ans qu'il vit pas en Espagne. Enfin, ça fait très longtemps
Ouais.
qu'il, donc, pour lui aussi, c'est un peu, finalement, être immigré de nouveau, en fait. Immigré dans son propre pays, comme il dit. Ça
Ça doit
serait,
faire bizarre de rentrer. Est-ce que, ouais, il faudrait voir avec lui si. Est-ce que c'est un sentiment de retour au bercail, tu vois? C'est étonnant. Moi, en tout cas, je me vois pas revenir en France. Je me dirais, mais
Ouais.
quel. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose, quoi.
Ah, mais moi, je me
Tu
vois pas
vois?
non plus rentrer en France, hein. C'est très bizarre. Je me vois pas du tout rentrer en France.
Ouais.
J'ai mes amis,
Bah,
mes
le
amis, ils
Luxembourg,
voyagent.
hein? C'est pas mal, le
Ouais, mais.
Luxembourg, apparemment.
Ouais, mais il fait pas beau, quoi. Et c'est gris. Et c'est petit.
C'est globalement en Europe, hein. Ça, si tu restes dans le bassin méditerranéen,
Ouais, je
globalement,
sais.
il pleut partout, hein.
Ouais, mais je suis désolée. Je veux dire désolée à mon frère, désolée à Hermano, mais je vous adore, mais le Luxembourg, je sais pas. C'est très cher
Mais
aussi.
franchement, moi j'ai fait un épisode avec Manu. Tu vois, je cherchais les indices là, pour montrer le Luxembourg. Ça a l'air, je sais pas, c'est vert, il y a des châteaux.
Ah non, c'est magnifique, hein, c'est très très beau.
Ça a l'air beau,
Ouais, c'est
ouais.
beau, c'est génial, c'est très beau. Après, l'inconvénient, je trouve que c'est un peu cher, c'est un peu comme les États-Unis pour acheter une maison. Ça fait mal.
Ouais, mais bon, ils ont les salaires. Je pense que les salaires
Ouais.
s'acclimatent au. Bon, je dis pas.
Ouais.
Oui, c'est exactement comme les US avec la crise du logement, mais.
Après, c'est les langues aussi. Il y a trois langues officielles au Luxembourg. Il y a le luxembourgeois, le français, l'allemand.
Ah, il faudrait vous mettre à l'allemand.
Toi, tu mets ton fils en école publique, donc c'est luxembourgeois, allemand et un peu de français, je crois. Toi, tu mets en école privée, du coup, c'est soit la British School, soit l'école française. Je dis, non, c'est bon, mon fils, il a déjà assez de langues, on va pas lui en rajouter une.
Bah, l'allemand, pourquoi pas, quoi. Ouais, tu vas pas le mettre à l'allemand.
Je pourrais pas l'aider dans ses devoirs. Hein. Je dirais, écoute, appelle ta cousine et demande-lui. Mais... Non, le Luxembourg, on y a pensé aussi, mais je pense que... Aujourd'hui, on a envie d'être proche de la mère de mon mari, du coup, un peu plus proche d'elle pendant quelques temps, parce que bon, ouais. Elle est seule aujourd'hui. Donc, je pense que l'Espagne va être une première étape pour nous. Et mon mari est très content. Les Espagnols sont très chauvins, en fait. Hein. Ils adorent leur pays, ils adorent leur culture, ils adorent tout de l'Espagne. Ouais. Donc, non. Et puis, ça fait 6 ans qu'on est là. Je pense que ça fera peut-être presque 10 ans quand on partira, donc...
Ouais, ça aura fait une belle décennie ailleurs.
Ah ouais. Et puis bon, nos amis commencent à partir. Je sais pas. Je pense que quand t'as une famille, les choses changent en fait. Tes priorités changent aussi. Après, bon, moi, ça me fait mal au cœur. Hein. J'adore mon travail, par exemple. Je me vois pas quitter mon job. Mais bon, ça c'est un travail. T'en retrouves un autre, quoi.
Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors, du coup, pour la suite? Est-ce qu'on peut te souhaiter un baby number two aux États-Unis, par exemple?
Oui, sûr qu'on aurait un baby numéro 2 aux États-Unis. Les plans ont été un peu, après ce qui s'est passé cette année pour nous, personnellement, ça nous a un peu ralenti.
Ouais. J'imagine les 3 mois en Espagne.
Ouais. C'est pas facile. Mais oui, donc du coup, je voulais pas faire un enfant sur un deuil, en fait. Je voulais faire mon deuil, ou bon, en tout cas essayer de le faire. Je sais même pas quand est-ce qu'on le fait vraiment, mais... Et puis ensuite, quand vraiment on est bien... le faire. Donc oui, on veut un deuxième enfant. Je pense qu'on peut me souhaiter de travailler quand même, de finir mon année scolaire. Parce que bon, maintenant, je travaille, je suis prof du coup, mais on a des demi-groupes, on est masqués à l'école avec les fenêtres ouvertes par -20 à Boston. En hiver, je pense que ça va être drôle.
Ah, je ne savais pas que vous aviez repris le chemin de l'école. Je croyais que c'était toujours virtuel. Oh, la vache.
On a repris fin octobre par demi-groupe, donc on a 2 jours par semaine un groupe, 2 jours un autre groupe.
C'est ça.
Mais bon, c'est compliqué parce qu'en plus, on fait des cours en même temps avec ceux qui sont à la maison, ceux qui sont à l'école. Mais je me vois pas là tomber enceinte avec le Covid à l'école et.
Ah ouais, non.
Je pense qu'il fallait juste qu'on. J'ai besoin d'un temps un peu de souffler là.
Ouais. Avant de. Spring break, hein.
Ouais. C'est ça. Mais il n'y aurait pas eu tout ça, je pense que je serais déjà enceinte, hein, honnêtement, je pense. De toute façon, c'est la question que toute la famille me pose. Alors, le numéro 2. c'est un peu compliqué pour nous cette année, donc il faut qu'on se dise un peu.
Mais ouais. Non, mais vous avez bien raison. Allons-y, go with the flow. Hein.
Donc, c'est ça, exactement.
Non, bah écoute, moi je te remercie énormément, Léa, pour ton témoignage.
Ouais, merci à toi, c'est super.
Super intéressant, surtout pour une famille avec 3 langues à la maison. C'est quand même incroyable, je ne sais pas comment, incroyable. Donc merci beaucoup pour ton temps et pour ton témoignage.
De rien, merci beaucoup à toi.
Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour poursuivre la conversation. Moi en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao.